Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Enchanté de vous retrouver pour Culture Média, au menu médias et culture au sens large, tous les médias et toutes les formes de culture. Vous allez voir, les cinémas, vous le savez, ont rouvert hier. On va vous aider à vous y retrouver dans la jungle des 40 sorties simultanées. Et puis, un focus sur le jeu vidéo dont tout le monde parle en ce moment. Quand je dis tout le monde, c'est un jeu qui provoque des débats enflammés sur la planète entière. Il s'appelle The Last of Us. On vous dira ce qu'il faut en penser. Un jeu vidéo, ça risque de faire un clash avec notre info média du jour, un documentaire sur France 5 qui trace et surtout qui explique notre addiction aux écrans avec ce qui se joue à l'intérieur même de notre cerveau et le système reptilien de récompense. Nous serons avec son auteur et une psychologue clinicienne. Puis nos invités, Jean-François Leroy, le directeur du prestigieux festival de photographie Visa pour l'image à Perpignan qui aura bien lieu à partir du 29 août. Il signe également une tribune dans laquelle il demande de l'aide pour sa profession. Enfin, le producteur Jean-Marc Dumontet, président de la Nuit des Molières, ce sera ce soir sur France 2 à 21h en prime time. Mais Dumontet dirige également pas moins de 5 théâtres et il a l'oreille du président Macron. C'est peu dire que sa parole est attendue. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Bonjour Céline Dacosta.
Bonjour Philippe Vandel, bonjour à tous.
Et bonjour Cyril Lacarrière.
Bonjour Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous.
Place à votre journal des médias. Cyril, qu'avez-vous au sommaire ce matin?
Arte a un nouveau président qui ne vient pas seul. Thomas Hughes, CNews pour soutenir le monde de l'entreprise. La mort de George Floyd incite la BBC à investir en faveur des minorités. Et attention, en fin de journal, une révélation pour la prochaine saison de Koh-Lanta.
Mais d'abord, les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télé?
Ils ont regardé la reine Julia Roberts qui a dominé la soirée. L'énième rediffusion de Pretty Woman a attiré 3 441 000 téléspectateurs devant M6. Et c'est juste devant le film Joséphine sur TF1 qui a attiré lui 3 381 000 téléspectateurs. C'est donc tout juste 60 000 téléspectateurs d'écart entre M6 et TF1. Enfin, France 2 et sa série Mallorca est sur la troisième marche du podium avec plus de 3 100 000 téléspectateurs.
Culture Média.
Et on commence ce journal des médias avec Arte qui a donc un nouveau président.
C'était attendu après le départ de Véronique Kella, présidente depuis 9 ans. Le petit nouveau s'appelle Bruno Patino. Et bon, évidemment, il n'est pas un petit nouveau. Bruno Patino était jusqu'ici le directeur éditorial de la chaîne franco-allemande et il en deviendra le président à partir du 5 juillet. Et Arte s'offre donc un président très expérimenté dans les médias français. Patino a été successivement directeur du Monde Interactif, directeur de France Culture, patron du numérique de France Télé et de France 5. Il a également été le directeur des programmes et des antennes de France Télévisions avant d'arriver du côté d'Arte il y a 5 ans. Cerise sur le gâteau, Bruno Patino a aussi été mon directeur à moi puisqu'il était
c'est
directeur.
Pas vrai. Ouais, ouais. Vous avez fait des études.
Et pareil. Il est le directeur de l'école de journalisme de Sciences Po. Avec cette nomination, Bruno Patino accède pour la première fois au poste de numéro 1. Il prend les rênes d'une chaîne que Véronique Kella a énormément fait progresser. La part d'audience de la chaîne est passée de 1,5 à 2,6% l'année dernière. Arte s'est également positionnée comme une des chaînes les plus innovantes en termes d'usage. C'est elle qui, la première, a permis à ses téléspectateurs de voir des programmes avant leur diffusion, le soir, à l'antenne, ou qui propose des replays plus longs que les habituels 7 jours des autres chaînes. Bref, Arte, c'est plus aujourd'hui qu'une simple chaîne pour les intellos. Il n'y a qu'à voir la réussite de ces soirées cinéma.
Et puis Cyril, vous avez une information supplémentaire. Bruno Patino aurait déjà choisi son numéro 2.
Et il s'agit d'une numéro 2. Selon nos informations, le tout nouveau président d'Arte France aurait choisi Dana Astier pour le seconder dans sa nouvelle tâche. Dana Astier connaît bien Arte. Elle y a dirigé l'unité culture entre 2003 et 2007 avant de partir du côté de France Télévisions où elle s'est occupée des documentaires, puis de prendre les rênes de France 3. Dana Astier a ensuite quitté France Télé en juin dernier, direction Radio France. Elle est nommée là-bas numéro 2 du groupe, mais on dirait que l'expérience va tourner court puisque, comme je vous le disais, selon nos informations, elle aurait accepté la proposition de Bruno Patino de le rejoindre du côté d'Arte.
On reste dans le mercato avec une nouvelle recrue pour la nouvelle chaîne Bismart.
Le journaliste Thomas Hughes quitte CNews et RTL pour voguer vers de nouveaux horizons, ceux de Bismart, la toute nouvelle chaîne dédiée au monde de l'entreprise, montée par Stéphane Soumier que vous avez reçu ici la semaine dernière, oui. Philippe. Thomas Hughes annonce son changement d'horizon dans une interview au Parisien. Le journaliste justifie sa décision par son désir de s'engager dans un projet, je le cite, qui va soutenir les entrepreneurs, ceux qui osent et créent de l'emploi. Pas d'acrimonie en revanche vis-à-vis de CNews. Thomas Hughes regrette simplement que son futur ex-employeur, comme les autres chaînes d'infos d'ailleurs, soit davantage des canaux d'opinion et de débat que des chaînes axées sur l'actualité et le décryptage. Après Michel Denisot, Thomas Hugues est la deuxième recrue de poids pour la toute nouvelle chaîne Bismart, pour le moment seulement disponible pour les abonnés Free. La chaîne est disponible sur le canal 327 de la Freebox. Elle arrivera jeudi sur le bouquet Canal+, et en juillet sur les box Orange et Bouygues Télécom.
On quitte la France, la BBC s'engage à mieux représenter la diversité de la société anglaise.
Et le groupe audiovisuel anglais a décidé d'y mettre les moyens, 110 millions d'euros au cours des trois prochaines années. Cette somme sera spécifiquement dédiée à la production de contenu qui représente mieux la diversité. En parallèle, la BBC s'engage à ce que 20% des postes de ses productions soient attribués à des minorités sous-représentées, c'est-à-dire par exemple des personnes asiatiques, noires, handicapées ou issues de milieux défavorisés. Cette initiative de la BBC fait suite à la mort de George Floyd aux États-Unis et au mouvement Black Lives Matter, un mouvement qui s'est répandu bien au-delà des frontières américaines. Le grand patron de la BBC parle d'un grand pas en avant pour le groupe public et annonce déjà d'autres mesures pour accompagner cette meilleure représentation de la diversité. Ces engagements prendront effet à partir du mois d'avril 2021.
Koh-Lanta s'est achevé il y a moins de 3 semaines et on a déjà des détails sur la prochaine saison.
Les amateurs du jeu d'aventure le savent, une des clés de l'émission repose sur la composition des équipes. Le choix repose parfois sur les capitaines des équipes et parfois sur des initiatives de la production. C'est comme ça qu'on avait par exemple eu les jeunes contre les vieux. Eh bien, selon nos confrères de Télé-Loisirs, lors de la prochaine saison de Koh-Lanta, la production a décidé de nous offrir une sorte de remake d'Interville, mais en mode interrégion. Les candidats seront répartis en 4 équipes, Nord, Sud, Grand Ouest et Grand Est. Et pour là, c'est donc la première fois donc, que l'histoire, dans l'histoire de Koh-Lanta, que 4 équipes vont s'affronter avec sans doute quelques accents de régionalisme.
C'est comment ça va se finir? Ça va se finir les ch'tis contre les Marseillais. Merci beaucoup Cyril Lacarrière. On se retrouve demain pour un nouveau journal des médias.
À suivre l'info média du jour avec l'émission Enquête de santé en première partie de soirée sur France 5 avec au programme cette question: abus d'écran, notre cerveau est-il en danger? On en parle avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
Nous leur consacrons un tiers de notre temps et même parfois davantage pendant le confinement. Entre le télétravail, les cours à distance, les réseaux sociaux et les jeux vidéo, le temps passé devant les écrans a explosé ces dernières semaines. Selon une étude de Santé publique France, 6 personnes sur 10 ont augmenté leur temps d'écran pendant le confinement. Près d'un quart des personnes interrogées a même déclaré y consacrer 7 heures ou plus par jour. C'est un phénomène au cœur de l'émission Enquête de santé, ce soir sur France 5, avec notamment le documentaire intitulé « Écran total ». Le cerveau hyperconnecté. Pour en parler, nous sommes avec le réalisateur de ce documentaire, Yann Dimeglio. Bonjour.
Bonjour.
Nous recevrons tout à l'heure avec nous, mais elle est un petit peu coincée dans les embouteillages, Vanessa Lalo, c'est ça la vie parisienne après le déconfinement. Tout d'abord, c'était quoi le point de vue, le point de départ de votre documentaire, Yann Dimeglio? Sur quoi êtes-vous parti?
Tout simplement, essayer de comprendre pourquoi moi, comme beaucoup d'autres, comme vous peut-être, je passais énormément de temps devant les écrans et parfois sans raison en fait. Et de ressentir une sorte de fatigue, une sorte de saturation. Mmh. Et pourtant, bah, j'y vais. Quand je me réveille à 3h du matin, j'allume mon téléphone. Quand je me réveille le matin, je vais aux toilettes, même j'y vais parfois avec le téléphone. Et je me suis juste dit, mais c'est pas normal.
Vous y allez en quête de quoi? Des messages? Ou même pas, vous allez picorer? Ou vous allez perdre du temps?
C'est ça.
Vous regardez des chats qui font du skateboard?
Ça peut être ça, on papillonne en fait. On y va, on ne sait pas trop pourquoi. Et en fait, dans ce doc, on a voulu comprendre ce qui se passait dans notre cerveau. Mmh. pour expliquer cette attirance. Et on a compris qu'en fait, il y avait toute une économie derrière.
Vanessa Lalo, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de vous installer dans ce studio. Vous êtes psychologue, clinicienne, spécialisée dans les pratiques numériques et les jeux vidéo. Et vous allez participer au débat qui va suivre la diffusion de ce documentaire. Selon vos études et ce que vous avez constaté, est-ce que le confinement était synonyme de laisser aller au niveau des écrans?
Oui, bien sûr. On a vu une nette augmentation du temps d'écran pendant ce confinement. Après, la question, c'est qu'est-ce qui va en rester?
Ouais. C'est-à-dire?
Bah, est-ce que les gens vont continuer à s'être approprié le numérique, peut-être de manière un peu outrancière? Est-ce qu'on va continuer à avoir des pratiques excessives ou est-ce qu'on va juste en avoir ras-le-bol des écrans parce qu'on a passé un peu trop de temps dessus et qu'on va retrouver des règles normales?
Yann Dimeglio, vous êtes allé voir une famille qui a des règles très très strictes concernant le temps passé devant les écrans. Pas des bonnes notes, non plutôt pas de bonnes notes, pas de wifi.
J'ai eu 12,5, un 20. Mmh. T'as eu ton résultat de maths ?
Oui.
Tu le sais que t'as eu 9 ?
Oui.
T'as vu les erreurs ou pas ?
Oui.
C'est que t'avais pas appris. Donc là, pour le moment, on va peut-être un peu calmer le Wi-Fi, donc je vais pas te mettre de partage. Tu vas attendre un peu et on verra plus tard, ok ? Se lave les mains et à table ?
Pas de tablette non plus pendant les repas. Dans cette famille, on limite l'exposition aux écrans.
Apolline, elle a énormément de mal à se détacher de la télé. Il faut vraiment qu'on répète à plusieurs reprises, qu'on l'appelle à plusieurs reprises pour qu'elle se détache.
Vanessa Lalo, est-ce que c'est un bon système, ça, le chantage aux bonnes notes ?
Le chantage, non. Je crois que ce qui est important, c'est d'impliquer toute la famille avec les écrans, qu'on pose des règles tous ensemble, des pactes de confiance, c'est ce qui marche le mieux.
D'accord, alors, ça revient même. Alors, est-ce que c'est une bonne chose, le pacte de confiance aux bonnes notes ? Oublions le mot chantage, qui alors, est négatif, vous avez raison.
Le mot bonne note, pas forcément, parce que certains gamins surinvestissent les écrans, justement, parce qu'ils sont en décrochage scolaire. Beaucoup d'enfants au potentiel, surdoués, zèbres, peu importe comment on les appelle, sont très en difficulté, ils vont trouver un refuge dans l'écran. Donc, la question en général, c'est pourquoi on cherche à surconsommer, entre guillemets, des écrans, même si j'aime pas le mot consommer ni écran, et comment on va pouvoir fixer des règles qui sont pertinentes pour tous, et qu'est-ce que ça veut dire surtout, et comment on va placer le curseur de manière pertinente.
Yann Di Meglio nous disait à quel point il était parfois, vous sentiez accro à votre smartphone, quand même à 3h du matin, pour regarder tout ou rien. On a vu qu'avec les écrans, les parents obtiennent aussi parfois de la tranquillité. Alors, notre but, ce n'est pas de dire ici si c'est bien ou si c'est mal de passer du temps devant l'écran, mais d'analyser, c'est ça qui est très intéressant dans ce doc, les mécanismes qui font que notre cerveau raffole des écrans. Pourquoi est-ce que cela fonctionne aussi bien sur nous et sur nos enfants ?
Alors, il y a une grande attractivité, c'est sûr. Les écrans, ils nous stimulent sensoriellement. On a le corps qui est présent aussi avec l'écran qu'on touche. Hein. Je ne parle pas de l'écran de la télé. Ça va nous impliquer dans notre corps. Ça laisse une expérience mémorielle.
Je n'ai pas pensé à ça. Le toucher est important dans l'expérience utilisateur, comme on dit.
Ce qui est tactile va renforcer l'expérience utilisateur. Elle va faire qu'on va continuer à toucher. L'écran va continuer à nous répondre. Donc, on va continuer à le toucher et ainsi de suite. Donc, c'est sûr que ça crée une grande attractivité, ces différents écrans tactiles. Le fait d'avoir notre corps qui est impliqué dedans, c'est compliqué. D'où le fait, effectivement, d'essayer de réfléchir à comment être consomme-acteur, peut-être éteindre nos notifications, mettre le portable en ne pas déranger. En tout cas, ce qu'on voit, c'est que dès qu'une notification arrive, notre cerveau va avoir du mal à la discriminer, alors que si on n'entend pas la notification arriver, on aura plus de mal à ne pas avoir envie de toucher notre écran. Donc ça peut déjà être un petit conseil simple, en fait.
Vous avez mis votre portable sur silencieux ?
Bien sûr.
Vous aussi, Yann ? Moi aussi, évidemment. Alors, on est accro au like. Comment on pourrait être accro à la drogue ou à l'alcool ? C'est pas moi qui le dis. C'est ce qu'explique Jean-Philippe Lachaud. Il est chercheur en neurosciences.
Chaque fois que nous recevons une notification, notre cerveau libère une dose de dopamine. C'est l'hormone du plaisir, de la motivation et de l'addiction. La satisfaction est fugace. Mais les neurones en gardent le souvenir. Nos écrans sont alors assimilés à ces shoots de petits plaisirs.
On a enfoui dans nos cerveaux un système qui est là pour déclencher ce qu'on appelle des comportements d'approche vers ce qui est immédiatement gratifiant, stimulant, nouveau, amusant, etc. Et on le voit bien à l'œuvre, hein, je veux dire, on a un petit moment de vide et tout d'un coup, on va aller regarder si on n'a pas un petit like ou un petit truc nouveau, rigolo, qui soit passé dans les nouvelles. C'est cette petite sensation-là qu'on peut tous ressentir, de petite excitation. Ça, c'est l'action du circuit de la récompense.
Vanessa Lalo, j'ai vu à votre MOOC, vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit par Jean-Philippe Lachaud.
Oui, alors c'est vrai que c'est assez compliqué de généraliser. On a beaucoup d'études en neuromarketing, en marketing, en communication, en expérience utilisateur, qui vont prouver, entre guillemets, effectivement, qu'on va être accro au like. Sauf que finalement, ce n'est pas prouvé par la science à proprement parler, qu'on ait des décharges de dopamine. On n'a pas pris plein de cerveaux pour les décortiquer, vérifier que des IRM exactement comment on fonctionnait. Donc pour l'instant, ce circuit de la récompense, on présume, effectivement, que ça pourrait fonctionner comme ça. On présume qu'il pourrait y avoir de la dopamine, mais finalement, c'est pas une réalité pour tous. Et on voit bien qu'il y a plein de gens qui n'ont pas besoin d'être likés ou d'avoir de la reconnaissance. Et du coup, on est un peu comme ça, en train d'extrapoler sur des généralités qui seraient valables pour tout le monde et tous les cerveaux. Or, c'est faux et c'est pas prouvé par la science.
Vous parlez d'une étude qui a été menée en 54 sur des pigeons. En quoi ça consistait ? Qui veut en parler ? Vous l'avez en tête, Yann Di Meglio ?
Oui, c'est un psychologue américain qui, à l'époque, évidemment, les réseaux sociaux n'existaient pas, les écrans non plus, à part les écrans des machines à sous, dans les casinos à Las Vegas ou ailleurs.
Les pigeons, il s'agit de vrais pigeons, hein. Ouais, pas d'abonnés.
Oui,
le mot a deux sens.
Mais oui, mais en fait,
c'est comme cobayes.
C'est vrai. Et en fait, à l'époque, ce chercheur en fait, a rendu fou, on pourrait dire, des pigeons en deux temps. Premier temps, il leur donnait à manger régulièrement. Donc, quand le pigeon tapait avec son bec sur une petite plaque, on lui donnait une graine. Donc, le pigeon mangeait à sa faim. Et ensuite, petit à petit, le chercheur a espacé les moments auxquels il lui donnait à manger. Et parfois, il ne lui donnait pas à manger quand le pigeon tapait sur la petite plaque. Et en fait, ça dérègle le système de la récompense que vous venez d'évoquer dans le cerveau du pigeon. Et il se met à manger sans faim. Et l'analogie avec les écrans aujourd'hui...
Ça allait être ma question.
Voilà. Et l'analogie avec les écrans aujourd'hui est valable, selon moi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme on ne sait pas ce qu'on va trouver finalement sur les réseaux sociaux, c'est une gigantesque promesse d'information, mais de tout et de rien aussi. Ben, on y va de façon un petit peu frénétique finalement.
Vanessa Lalo, on déverrouille nos téléphones, c'est une moyenne 220 fois par jour, c'est dit dans le documentaire. C'est une habitude ou c'est une addiction ?
Une habitude, on va regarder l'heure, on va regarder si on a des notifications.
Je vais poser la
pas.
Question différemment. Est-ce que c'est grave, docteur ?
Non, c'est pas grave. En fait, chacun va y mettre des choses très différentes. La question, c'est, on a tendance à dire les écrans comme s'il y avait un grand Z et comme si tous les écrans se valaient. La question, c'est de différencier déjà les supports et les contenus, puis la qualité, la quantité. La quantité, ces chiffres-là, ils veulent rien dire. Le temps passé dans les écrans, le nombre de fois on déverrouille, n'a strictement aucun sens. La question, c'est est-ce qu'on est dans quelque chose de refuge très compulsif, très répétitif, qui n'a aucun sens et qui comble un vide, comme ça a pu être dit dans le documentaire à un certain moment, ou est-ce que c'est pour vérifier si on a des mails extrêmement urgents qui arrivent, un contact avec sa famille, une personne fragile, isolée dont on doit s'occuper. Ça n'a pas le même sens et le même intérêt, et c'est vrai que comme on met tout derrière un même contenu et contenant, on a du mal à différencier.
En même temps, pour reprendre ce que disait Yann Di Meglio au début de l'émission, c'est très rare d'avoir des mails urgents quand on va aux toilettes à 3h du matin.
Oui, en fait, le problème pour nous, c'est qu'on y va sans raison. Mais à la limite, on est adulte, on a sa vie, on peut dire qu'on fait ce qu'on veut. Mais c'est un problème pour les enfants, en fait. Les enfants et même les ados, parce que leur cerveau n'est pas complètement développé encore et ça vole du temps aux apprentissages.
C'est une deuxième partie, un deuxième volet de ce passionnant documentaire qui passe ce soir. On continue à en parler avec vous.
Après plusieurs semaines de confinement, le temps consacré aux écrans a explosé. Une surexposition inquiétante, notamment chez les jeunes. C'est le thème de l'émission Enquête de santé ce soir sur France 5. Et on continue à en parler avec nos invités dans un instant sur Europe 1.
Europe 1, Culture Média, Philippe Vondel.
Enquête de santé, c'est ce soir sur France 5 à 20h55 avec comme thème l'abus d'écran dont la consommation massive alarme le monde de la santé. On en parle ce matin avec nos invités, la psychologue spécialiste des pratiques numériques Vanessa Lalo et le journaliste Yann Di Meglio, Philippe.
Et vous qui nous écoutez, vous dites mais pourquoi je regarde toujours autant et aussi souvent mon smartphone ? Eh bien c'est vrai que c'est ce qu'on va entendre, la question... C'est celle-ci, la réponse avec Jean-Philippe Lachaud, il est chercheur en neurosciences.
On voit bien, il suffit de faire l'expérience, essayer de traverser une route en fermant les yeux. On va pas le faire parce qu'on sent qu'on se prive d'informations qui sont essentielles. Et le fait d'éteindre son téléphone, de ne pas l'avoir à proximité, va finalement créer une impression qui est finalement assez analogue, qui est de se priver d'informations qui sont essentielles. Et donc ça peut créer le même type d'angoisse que celle qu'on peut avoir quand effectivement on traverse, on est dans une situation où il faut absolument regarder autour de soi, mais on ferme les yeux.
Il va pas un peu fort là ? C'est quand même moins vital de voir défiler des likes sur un post Instagram que d'éviter de se faire écraser en traversant la route.
Ah, mais il cherche à vulgariser, il est chercheur en neurosciences.
Oui.
C'est difficile d'expliquer ce principe en deux phrases. Mais oui, c'est un petit peu ça, c'est que les téléphones, en tout cas le numérique, c'est une gigantesque promesse d'information. Mmh. Et évidemment que c'est tentant. C'est tentant de réagir à une notification parce qu'il y a une info, parce qu'un média nous envoie une info, parce qu'un réseau social nous envoie une info, parce qu'un jeu vidéo nous envoie une info.
Mais il y a aussi, peut-être que c'est tentant parce que nous sommes tentés, et justement vous évoquez également l'aspect économique de cette addiction. Certaines sociétés, entreprises ont fondé leur modèle économique là-dessus. Plus on passe du temps sur les écrans, plus ces entreprises font du profit. Ça a même un nom, ça s'appelle l'économie de l'attention. Comment ça fonctionne ? Qui veut répondre ?
L'économie de l'attention, c'est très simple. C'est en fait, on a l'impression que c'est gratuit. On télécharge une application gratuite.
Ouais.
Et en fait, le concepteur, le propriétaire de l'application gagne de l'argent avec le temps qu'on y passe en vendant de la publicité,
ouais.
Tout simplement. Donc plus on y passe de temps, plus il gagne de l'argent.
Donc ça ne veut pas dire que certaines personnes sont plus faibles, c'est que notre cerveau est fait comme ça.
Oui, c'est un biais. C'est en fait... les concepteurs de ces plateformes utilisent des biais neurologiques et utilisent notre faiblesse finalement pour nous rendre dépendant, peut-être que le mot est fort, mais en tout cas pour nous persuader d'y passer le plus de temps possible.
Ce qu'on apprend dans le documentaire, c'est qu'on regarde d'autant plus les écrans le soir, et pas seulement son portable, mais même une série sur Netflix, on regarde d'autant plus ces écrans qu'on est fatigué. Comment ça se fait? Il y a une explication à ça ou pas?
Oui, c'est le cortex préfrontal, en fait, c'est une partie du cerveau. Alors là, vous êtes plus qualifié que moi, Vanessa, pour en parler, mais c'est cette partie du cerveau qui devrait nous retenir finalement de regarder. C'est la prise de recul, c'est l'esprit critique. Mmh. Et le soir, cette partie du cerveau réagit moins bien à cause de la fatigue.
D'accord. Et donc, plus on est fatigué, plus on regarde, plus on regarde, plus on est fatigué.
Exactement, c'est un cercle vicieux.
C'est comme le type qui a bu et qui, du coup, il se rend plus compte qu'il est. Et ouais, on boit d'autant plus qu'on a bu.
Il parle très bien les langues étrangères, mais c'est pas vrai, en fait. Non.
Ouais.
C'est pas exactement ça. C'est qu'effectivement, le cortex préfrontal, c'est la prise de décision. Plus on est fatigué, plus il va s'amoindrir et plus, effectivement, le plaisir va prendre le pas sur la décision finale. Après, les biais cognitifs, là où je mettrais un bémol, c'est que certains biais sont extrêmement bien identifiés, mais qu'encore une fois, c'est pas valable sur tous les cerveaux. Mm-hmm. Tout le monde ne réagit pas de la même manière. Tout le monde n'a pas envie de scroller sans fin ses fils d'actualité. Tout le monde ne veut pas la reconnaissance. Tout le monde ne poste pas des choses sur les réseaux sociaux non plus. Donc, on voit que ces biais ne sont pas valables pour tout le monde non plus. Donc, je mets ce bémol-là. Attention, ne généralisons pas non plus en entier. Et l'économie de l'attention, c'est pas une dépendance ou une addiction. Voilà, c'est effectivement une manière de rendre attractif une expérience, mais est-ce que l'expérience doit toujours être négative pour finalement qu'on vive, quoi.
Dans
le quotidien, on a le droit de vivre des expériences positives et de travailler même dans des espaces positifs. Pourtant, au travail, on a de la contrainte. Bon, voilà, ne mélangeons peut-être pas tout le temps tous ces termes.
Oui, mais en fait, le but du doc, c'est pas qu'on se prive tous de nos écrans et du numérique, c'est vraiment pas ça. Hein.
C'est quoi le but du doc?
Non, c'est simplement de nous expliquer que il y a une économie qui cherche à nous persuader de rester le plus longtemps possible devant nos écrans.
Ouais.
Et effectivement, comme le dit Vanessa Lalo, après, on est inégaux face à ça.
Justement, vous parlez d'économie, on parlait du cas de Julien. Il est dépendant aux jeux vidéo. Tout d'abord, c'est assez rare pour être signalé, c'est un témoignage anonyme, car sa famille ignore son addiction aux écrans. Comment vous l'avez tourné? Comment vous l'avez convaincu? Comment vous avez réussi à trouver ce Julien?
C'est très dur de trouver. Je pense qu'il y a beaucoup de gens comme Julien, en fait, beaucoup plus qu'on le croit, mais c'est très compliqué de témoigner, évidemment. Ça a été très long. Il a accepté de témoigner parce qu'il est dans une période où, justement, il a pris conscience de son addiction. Lui, il parle d'addiction, hein, au téléphone. Mm-hmm. Et ça fait un an qu'il va mieux, mais il y passe encore 11 heures par jour.
Et ça lui coûte combien? Parce qu'il faut expliquer, c'est des jeux vidéo gratuits,
oui,
mais faussement gratuits.
Oui, bien sûr. En fait, ce sont des jeux téléchargeables qui sont gratuits. On commence à jouer. En général, on est très fort au début, mais ça, c'est l'algorithme, en fait, du jeu qui nous
laisse gagner.
Voilà, qui nous laisse gagner. De toute façon, c'est les mêmes techniques que dans les casinos il y a 50, 60 ans. Il nous laisse gagner et petit à petit, il commence à rendre le jeu plus compliqué. Et là, il nous emmène vers le magasin où on peut acheter justement des pouvoirs, des personnages pour continuer à progresser dans le jeu.
Pardon, arrêtez si je me trompe, mais dans les casinos, la roulette, c'est une chance sur 37, qu'on soit débutant ou qu'on soit confirmé. Tandis que là, c'est réellement beaucoup plus facile quand on arrive. Donc
oui,
on gagne, on gagne, on gagne, on gagne.
Oui, c'est plus violent, en fait. Ouais. C'est
voilà,
beaucoup plus rapide.
C'est beaucoup plus violent que dans les casinos. Il a pu dépenser, ce Julien, entre 6 000 et 10 000 euros en jeux vidéo, ce qui est complètement dingue. Il a ouvert un crédit pour ça, Vanessa Lalo. Est-ce que vous voyez beaucoup de gens, de patients dans ce cas-là, même s'il ne faut pas tout négativiser?
Non,
pardon,
alors,
pour le néologisme.
Pas du tout. Moi, je ne mettrais pas le mot addiction. Je ne parle pas d'addiction pour les écrans ou les jeux vidéo. Je parle de pratique excessive, ce qui pour moi fait beaucoup plus de sens.
Ouais.
Cette personne-là n'est pas addict aux jeux vidéo, ni en excès de jeux vidéo à proprement parler. Il est en addiction, pour le coup, du jeu d'argent.
Ouais.
Et son problème à lui, c'est de dépenser de l'argent compulsivement sans être capable de prendre le contrôle à un seul moment vis-à-vis de ses dépenses d'argent. Donc là, c'est vraiment problématique et on est sur un autre enjeu que simplement passer du temps sur l'écran. On voit bien que chez lui, c'est un refuge et qu'il se passe quelque chose dans son corps et dans sa tête qui fait qu'il n'arrête pas.
Le documentaire pose également la question de l'enseignement, question cruciale. Est-ce que c'est aux profs de s'adapter à l'inattention de plus en plus grande de leurs élèves ou est-ce qu'il faut réapprendre aux élèves à être attentifs?
Alors, moi, je ne prendrais pas du tout les choses comme ça non plus. Tout le monde doit faire des efforts. Les enfants doivent peut-être apprendre un petit peu plus à se concentrer, à avoir de l'attention, sans avoir toujours des carottes et des gratifications permanentes. Les profs doivent bouger leur ligne aussi. On est au XXIe siècle. L'école de Guyot 1871, telle qu'elle a été conçue à un moment de manière extrêmement verticale, il faut un moment passer à autre chose aussi. On est dans une société horizontale où tout le monde co-construit Wikipédia. Aujourd'hui, on est tous sur les réseaux sociaux horizontalisés. Il n'y a pas de raison que l'école n'évolue pas non plus. Donc tout le monde doit peut-être faire un compromis aussi dans les apprentissages.
Mmh. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Vanessa Lalo. Vous serez dans le débat ce soir qui va suivre le documentaire. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicienne. Yann Di Meglio, vous signez ce doc Écran total, le cerveau hyper connecté. C'est ce soir à 20h50 sur France 5. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe.
Merci à vous.
Notre prochain invité, Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image de Perpignan. Il vient nous parler du secteur de la presse et du photojournalisme qui est en crise. On l'accueille dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et dans Culture Média, Philippe, on accueille Jean-François Leroy.
Bonjour Jean-François Leroy.
Bonjour Philippe.
Vous êtes photographe, photojournaliste, vous êtes le directeur du prestigieux festival Visa pour l'image de Perpignan. Et je m'empresse de dire qu'au milieu de cette vague d'annulation, le festival est maintenu. Ce sera du 29 août jusqu'au 13 septembre avec des rencontres, des colloques, des expos, même si le programme a été modifié, on va en reparler. Mais d'abord l'actualité immédiate. Avec un collectif du monde de la photo, vous avez signé une lettre ouverte au président de la République. Vous tirez la sonnette d'alarme sur les conséquences économiques et financières de la crise du Covid pour les photographes. Tout le monde, ou presque, est pâti de cette crise malheureusement. Pourquoi ce focus sur la profession de photographe? Qu'est-ce qu'elle a de particulier?
Mais c'est-à-dire que personne ne s'en occupe. C'est-à-dire que les photographes sont de plus en plus indépendants puisque les agences ferment les unes après les autres.
Ouais.
Les journaux produisent de moins en moins. Quand ils en voient qu'un photographe, maintenant c'est 3 jours et plus 15. Et donc il y a un nombre incalculable de photographes qui, depuis le début du confinement, n'ont pas sorti leur appareil parce qu'ils n'ont pas eu une commande, donc revenu zéro.
Mais les journaux ont continué de paraître.
Oui, les journaux continuent de paraître, mais si vous voulez, une fois que vous avez montré 3 malades, 3 infirmiers avec des masques et 3 enterrements, les photos, elles sont un peu redondantes, ils ont trouvé. Donc vous avez vu, la pagination s'est réduite drôlement.
Ça, c'est un bon argument, la pagination. Mais sinon, on peut faire des photos aussi intéressantes dans un hôpital que dans une manifestation, que sur un champ de course ou dans une mine comme Salgado.
Mais je suis d'accord avec vous. C'est d'ailleurs pour ça que dans le programme de Visa dont on va parler tout à l'heure, moi, j'ai 2 expositions sur le Covid. Parce que...
J'ai cru que vous m'avez fait peur. J'ai cru que vous trouviez que ce n'était pas intéressant de filmer ce qui se passe dans l'hôpital. Une matière humaine incroyable.
Je veux dire oui, mais une fois que vous avez fait... Je sais pas, quand Match publie le reportage de Laurence Jay dans les TGV médicalisés pour... C'est magnifique ce travail, c'est indispensable, mais on ne peut pas le faire toutes les semaines, c'est ça que je voulais dire.
Compris, il y a des noms prestigieux parmi les signataires, il y a Nathurs Bertrand, Raymond Depardon, François Huguier, Bernard Plessus, Patrick Zachman, pardon, et évidemment l'immense icône Sébastien Salgado, le photographe brésilien. Votre article débute ainsi. « Monsieur le Président de la République, chevaucher le tigre, virgule, quelle magnifique expression. » Alors oui, c'est une belle expression, mais ça veut dire quoi et qui est ce tigre?
Ben oui, on ne sait pas, moi je ne sais pas, c'est pour ça qu'on a fait cette tribune. Parce que, en fait, il n'a rien annoncé pour les photographes. Donc, si vous voulez, on annonce. Et c'est
le 6 mai dernier. Le président Macron, pardon de vous interrompre, a fait des annonces en faveur de la culture. La photographie n'est pas incluse dans la culture?
Il a prononcé le mot, je crois, 2 fois. Et le mot, vous savez très bien, Philippe, que aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour un photographe d'avoir la carte de presse, qu'on les paye de plus en plus en auto-entrepreneur ou on refuse de les payer en salaire. Donc, si vous n'avez pas 51% de vos revenus qui viennent d'un organe de presse avec un numéro de commission paritaire, vous n'avez pas votre carte de presse.
Ouais.
Et c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Donc, je vous dis, de nombreux photographes qui sont dans des situations désespérées, en France et à l'étranger.
Vous écrivez, les mesures proposées par le gouvernement ne répondent pas aujourd'hui aux besoins des photographes. Qu'est-ce que les photographes ont comme besoin spécifique, à part de travailler pour manger?
Travailler pour manger et peut-être avoir une accessibilité à une retraite, parce que là, aujourd'hui, quand vous êtes en auto-entreprise, que vous êtes payé des misères et que vous payez les charges, l'URSSAF, la TVA, etc., etc., vous n'avez pas de quoi vous faire une capitalisation. Donc les photographes sont... Moi, je connais des gens, et je répète, en France ou à l'étranger, qui vivent dans une extrême précarité.
Et des gens qui autrefois avaient pignon sur rue ou des petits jeunes qui démarrent?
Les deux. Les deux, malheureusement, si vous voulez, il y a des photographes confirmés. J'ai eu un très grand photographe au téléphone l'autre jour, Paolo Pellegrini, qui me dit qu'il n'est pas sorti de chez lui depuis 3 mois. Ouais. Il n'a pas eu une commande et c'est dramatique pour lui.
Je vous cite encore, il faut que les entreprises...
C'est pas moi qui ai écrit le texte, hein.
Oui, mais vous l'avez co-signé, évidemment. Oui, oui. Il faut que les entreprises et les particuliers retrouvent l'envie et la volonté d'investir dans la photographie française. Comment ça, investir? On est particulier, on va investir dans la photo?
Je ne sais pas, il y a des exemples historiques assez formidables. Quand les États-Unis, le secrétariat d'État à l'agriculture commande aux 10 plus grands photographes américains un état sur la condition des agriculteurs dans les années 20, ça donne la FSA, qui est un fonds d'archives absolument fabuleux. Pourquoi ne pas envisager... Enfin, il y a eu pendant des années une politique de commande au ministère de la Culture qui a malheureusement un peu disparu. C'est dommage.
Et alors, vous demandez une diffusion privilégiée des images des photographes exerçant en France. Et là, ça m'a vraiment étonné. Parce que les métiers de photographe, c'est justement des gens qui allaient vers l'extérieur, qui voulaient que les frontières soient abolies. Et même votre festival s'appelle Visa.
Oui, non, mais si vous voulez, bon, c'est vrai que ce passage, il est un peu.
On a le droit de ne pas totalement cautionner non plus une tribune qu'on a signée.
Complètement.
Là, c'est votre cas en l'occurrence.
Sur les photographes qui doivent travailler. Oui, je trouve que c'est. Moi, vous savez, je n'aime pas les catégories, mettre des étiquettes sur tout le monde. Donc, photographe français, femme, de la diversité, etc., etc. Pour moi, il y a un seul critère, c'est le talent du photographe.
On aurait pu vous recevoir il y a 6 mois. Pour parler du métier de photographe, dont on dit, ça fait des années qu'on dit que le métier est sinistré pour plusieurs raisons, malheureusement. D'abord parce que la télé a tué en quelque sorte le grand reportage à l'étranger. Plein de photographes vous disent, malheureusement, moi je prends des risques, je vais en Syrie ou en Irak, et ce qui marche, c'est les photos de people qu'on fait en bas de la rue en prenant rendez-vous. Et aussi parce qu'avec un smartphone, chacun peut faire des photos. Je vais volontairement vous poser une question iconoclaste. Est-ce que le métier de photographe est appelé sinon à mourir, du moins à décliner comme vendeur de charbon dans les années 50 ou vendeur de vinyle?
Non, moi, je ne crois pas du tout. D'ailleurs, regardez, le vinyle remonte.
Il remonte, mais il ne fait pas du tout les scores qu'il faisait autrefois.
Si vous voulez...
Il remonte à la marge. Il double, mais il est passé de 1 à 2%.
Non,
mais il reste à 2%.
Ouais, non, mais ce que je veux dire, si vous voulez, c'est que là, on est au creux de la vague, mais que les amateurs qui font des photos avec leur smartphone... c'est toujours des photos accidentelles.
Ouais.
C'est jamais. Alors que le photojournaliste, il prépare son sujet. Il prend des contacts, il a des fixeurs, il a des interprètes. Il raconte une histoire avec un début, un milieu, une fin. Je veux dire. Et c'est ça qui fait sa force. Je veux dire, on a tous un stylo, on n'est pas Shakespeare pour autant.
D'accord. Et vous avez même 2 portables dans la poche. Je ne m'attendais pas à ce que Jean-François Leroy, le héros de la photographie...
Mais c'est pour téléphoner, c'est pas pour faire des photos.
Et 2 téléphones. Vous restez avec nous parce qu'on va parler aussi de Visa pour l'image
avec
à Perpignan
plaisir.
Et qui va se dérouler. Et ça, c'est une bonne nouvelle de l'après-confinement.
Oui, une 32e édition du Visa pour l'image qui s'adapte au Covid et qui aura bien lieu du 29 août au 13 septembre à Perpignan. On en parle avec Jean-François Leroy, le directeur du festival, dans un instant sur Europe 1.
Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Jean-François Leroy, le directeur du festival Visa pour l'image, qui est notre invité ce matin, Philippe.
Visa pour l'image, donc vous avez réussi à sauver ce festival qui n'a pas été annulé, contrairement à beaucoup d'autres, hélas. Ce sera donc à Perpignan à partir du 29 août. Ça va durer jusqu'au 13 septembre, mais il y aura également des expos qui vont perdurer jusqu'au week-end du 26-27 septembre. Qu'est-ce qu'on va voir et d'abord dans quelles conditions?
Mais écoutez, les conditions, vous savez, on marche un peu à l'aveugle. Hein. On a supprimé les soirées parce qu'on avait peur de ne pas pouvoir réunir 2500 ou 2600 personnes dans un amphithéâtre, dans un cloître. Donc on a décidé de supprimer ces soirées. Mais on a décidé de maintenir une 20aine d'expositions dans 3 lieux, des lieux qui nous permettent de faire un sens de circulation pour éviter de se croiser. Et puis on va voir comment ça évolue, est-ce qu'il faudra que les gens aient des masques, est-ce qu'il faudra tenir 1 mètre de distance entre tout le monde ou pas, on n'en sait rien. Mais en tout cas, ce qui est important pour moi, c'est que Visa pour l'image existe à Perpignan physiquement.
Est-ce qu'il y a des lignes directrices pour un festival comme le vôtre, ou est-ce que vous choisissez les 20 photographes, les 20 expos qui vous séduisent le plus au moment où vous faites la sélection?
Non, c'est vraiment au moment de la sélection. C'est-à-dire que il faut que le sujet soit original, il faut que le sujet soit évidemment bien traité, il faut que le sujet m'apporte une information, qu'elle soit gaie, triste, qu'elle m'émeuve, qu'elle me fasse pleurer, qu'elle me fasse sourire. Et c'est vrai que cette année, on a beaucoup, beaucoup d'expositions sur le développement durable et la pollution, etc., etc. Parce que quand on a commencé à travailler sur le programme, on ne savait pas si on pourrait avoir lieu. Donc on avait misé sur des expositions un peu sans date,
ouais,
qu'on pourrait utiliser l'année prochaine. Heureusement, grâce à Dieu, on peut les utiliser cette année.
Puisqu'on parle d'environnement, j'ai été frappé par le travail de James Whitlow Delano sur le plastique raconté. Je vais dire ce que j'ai vu. C'est-à-dire qu'on est habitué à voir le continent de plastique sur l'océan, on a vu cette image, ou les déchets au pied de l'Everest, mais lui-même, il fait pas un pas de côté, il fait 10 km de côté, puisqu'il photographie son supermarché à Tokyo.
Oui, pour montrer le suremballage, etc. Ouais. Mais c'est vrai qu'il fait un constat impitoyable. Bon, donc là, on parle beaucoup avec le Covid, on parle beaucoup de l'action des lobbies plastiques qui essayent de se recaser pour remonter le truc. Mais quand on voit le travail de James Whitlow Delano, on n'a plus du tout envie de consommer du plastique, parce que c'est une saloperie qui pollue tout. Je ne sais pas si vous avez vu cette photo de l'entrée de la mine au Pérou,
oui.
Où ce mineur, on se croirait dans une décharge municipale, quoi. Ouais. Et en fait, on est à je ne sais pas combien de mètres d'altitude, à l'entrée d'une mine d'or, et il y a du plastique partout, partout, partout. Et c'est vrai, ben là j'ai vu l'autre jour que des scientifiques avaient découvert que dans le parc de Yellowstone...
Je l'ai vu il y a deux jours, c'est complètement dingue. Voilà. Dans la pluie,
dans
il y a du plastique.
Pluie, il y a du plastique.
Alors que théoriquement, tout ceci est très 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 préservé.
Et que toutes les surfaces du parc de Yellowstone sont polluées au plastique, alors que c'est un parc hyper protégé, donc ça pose vraiment des problèmes. On disait dans le reportage dont vous parlez que chaque être humain avale 5 grammes de plastique par semaine.
Mon Dieu.
Ouais. Je ne sais plus si c'est par semaine. Enfin, c'était un chiffre absolument colossal.
Alors, s'il fallait dégager des tendances, il y aurait l'environnement. Ouais. Il y a également le travail des femmes. Il y a Nicole Tung, que je ne connaissais pas, qui a photographié les contestataires à Hong Kong.
Oui, alors Nicole, c'est une photographe qui est née à Hong Kong, ouais. qui vit à Istanbul. Et donc, dans tout ce que j'ai vu sur les émeutes à Hong Kong, c'est la fille qui a le plus... qui est le plus rentré dedans, qui est le mieux rentré dedans.
Elle a reçu une bourse, j'ai appris, pour les femmes photojournalistes, bourse du ministère de la Culture. C'est une bourse interdite aux hommes. Même dans la photo, il y a la discrimination positive.
Oui. Positive.
Pourquoi ce choix ?
Écoutez, c'est une idée du ministère de la Culture à laquelle on a adhéré. Vous savez, Visa pour l'image, on a été les premiers à créer il y a 20 ans le prix de la femme journaliste.
Ouais.
Parce qu'il y a les prix pour les jeunes, il y a les prix pour les vieux, il y a les prix pour la guerre, il y a les prix... Mais il n'y avait pas de prix dédié pour les femmes.
Pourquoi un prix pour les femmes ? Elles sont moins bonnes photographes que les hommes ?
Non, je n'ai pas dit ça. Mais si vous voulez, elles partent souvent avec un handicap parce que, alors elles ont des avantages sur certains sujets. Stéphanie Sinclair, quand elle travaille sur le mariage des petites filles, un homme ne pourrait pas faire les photos qu'elle fait. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un peu une provocation. On a dit qu'il y a des prix pour les jeunes, pour les vieux, pour tout le monde. Bon, on va faire un prix pour les femmes, ça fait 20 ans. Et il y a des femmes qui ne veulent pas y participer parce qu'elles veulent être reconnues que comme photographe et pas comme femme photographe.
On peut également les comprendre. Autre actualité, je ne m'attendais pas à parler de ça maintenant dans Culture Média, les élections municipales. Pourquoi j'en parle ? Parce que Perpignan a de grandes chances de devenir la plus grande ville de France administrée par un élu d'extrême droite. Le grand favori du deuxième tour, c'est Louis Alliot, du Rassemblement National. Comment va se passer la cohabitation entre vous s'il est élu ?
Bah écoutez, j'espère que... Moi, je pense que la liberté ne se repense pas. La liberté... moi, j'ai eu la chance de travailler avec 3 maires successifs à Perpignan jusqu'à aujourd'hui. Et aucun de ces maires n'est jamais intervenu dans ma programmation. J'ai jamais eu la moindre censure, etc. Donc,
et vous attendez une censure ?
Non, je n'ai pas dit ça. Ah. Mais je veux dire, j'y serais très, très, très attentif. Quoi.
Vous l'avez déjà rencontré, Louis Alliot ?
Bah forcément. Je veux dire, il est député européen... Et quand il vient aux inaugurations, je salue en tant que...
Parce que vous avez dit dans une interview que vous comptiez, je vous cite, résister de l'intérieur.
Oui.
Résister à quoi ?
Ben, résister, c'est-à-dire que je trouve que c'est trop facile de dire « Ah, le Front National arrive à Perpignan, donc je m'en vais ». Je trouve qu'il faut au contraire montrer des sujets qui peuvent réveiller les gens, qui peuvent leur faire prendre conscience de peut-être, parce qu'on n'est pas dimanche soir, de la bêtise qu'ils ont faite.
On verra, on n'est pas dimanche soir. Merci beaucoup Jean-François Leroy. Je rappelle, Festival Visa pour l'image, ce sera à Perpignan, ce sera à partir du 29 août jusqu'au 13 septembre. Merci d'avoir été avec nous en direct sur Europe 1. Culture Média qui continue dans quelques instants, il y aura le journal de la culture avec comme invité le président de la Nuit des Molières, Jean-Marc Dumontet en personne. C'est ce soir la Nuit des Molières sur France 2, pas à 23h au milieu de la nuit mais en prime time, ce qui n'était pas arrivé depuis 10 ans. Il y aura le portrait inattendu de Dumontet par Hélène Manarino. Dans les indispensables, les cinémas à nouveau ouverts, mais qu'est-ce qu'on peut y voir 40 films à l'affiche, comment faire le tri entre les sorties, les ressorties, les nouveautés. Mathieu Charrier fait le tri. Puis un jeu vidéo dont tout le monde parle, je veux dire toute la planète, The Last of Us, c'est la partie 2. Clément Le Saff y a joué et il a succombé. Mais d'abord, le journal de la culture, juste après ça.